Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Novembre 1947. Un avion, un B-25, qui s'appelle un Michel Tailly, s'écrase à 10 minutes de Colombéchar en Algérie. À son bord, le général Philippe Leclerc de Hauteclocque.
En 1952, était élevé au rang de maréchal de France, à titre posthume, Philippe-François-Marie Leclerc de Hauteclocque, général d'armée. Celui que nous appelions tous, familièrement, simplement, respectueusement, avec admiration, Leclerc.
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 Et cet hommage suprême que rendait la France à l'un de ses plus glorieux enfants, c'était le couronnement d'une longue épopée.
Une belle aventure qui ne finira jamais de vivre dans nos mémoires.
Une belle aventure qui commença en quelque sorte à l'un des moments les plus cruels de notre histoire.
Au 100e anniversaire de la libération de Paris, on nous a montré beaucoup de documents d'époque où il apparaît. Qui était-il ? Un homme du Nord, exactement un homme de l'Artois. Il est né le 22 novembre 1902 au château de Bellois. C'est le 5e de 6 enfants. Il a un frère aîné, Guy, et il aura donc 4 sœurs. Ses parents ? Bien, son père, c'est Adrien de Hauteclocque. Il est comte et propriétaire du château. Non seulement du château, mais de centaines d'hectares de forêts, des forêts giboyeuses, et de terres agricoles dont certaines vont même jusqu'en Belgique. Alors, il est vraiment très riche. Mais il se soucie d'améliorer la vie du village. Par exemple, Puisque l'eau est difficile à puiser, il fait construire un réservoir. Il oublie seulement de demander l'autorisation. Il a créé une école libre, il loge et il rémunère lui-même l'institutrice. Il est le maire du village, seulement il ne va pas à la mairie, il convoque au château. Il a une vingtaine de domestiques qui sont très bien traités s'ils travaillent bien. Alors c'est un personnage le père. Hein. La mère c'est Marie-Thérèse van der Kroos de Vazier, une vieille lignée lilloise. Et la devise de la famille, qui est une famille noble, qui remonte à 1163. La devise, c'est « On entend loin, Holte Klok ». Et Holte Klok, c'est une commune du Pas-de-Calais, de l'époque. Alors l'enfant, on l'appelle Philippe. Pourquoi ? En souvenir d'un ancêtre qui a défendu de sa vie un monastère à Arras, qui était assailli par des mercenaires croates pendant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, je vous rappelle, elle a duré de 1618 à 1648. Il y a toujours eu un ancêtre dans les croisades et les campagnes. Mais, écoutez bien, jamais un courtisan. Alors l'éducation se déroule où ? Ben, à la maison, bien sûr, pour commencer. La maman apprend à lire et elle donne les premières leçons d'instruction religieuse. La grande sœur Françoise se charge de l'histoire. Et on a une demoiselle. Mais ça n'est pas une nurse anglaise, elle est allemande. Et elle apprend la langue à tout le monde. Jusqu'à l'âge d'entrée au collège, c'est Marguerite Galliot, une institutrice de Château-Gontier, qui fait la classe. Philippe apprend aussi le piano et il adore par-dessus tout la chasse. C'est une véritable passion. Et alors, il a tout le territoire qu'il faut, bien sûr, pour assouvir cette passion. Il joue aussi au tennis. Son caractère est bien très tôt une volonté de faire et des bouffées de colère contre lesquelles il lutte. Il est très religieux, il voue un amour sans borne à la Sainte Vierge. Octobre 1915, il quitte Belloy pour entrer au collège jésuite de la Providence. Tous les hommes de la famille l'y ont précédé. Le père Villaret dit que Philippe n'a jamais écrasé ses camarades avec le poids de sa famille. Il est aristocrate et il est riche, mais il ne l'a jamais fait sentir. Quand il parle de lui, il dit qu'il est distingué, simple et cordial. Et l'internat, ce n'est pas une partie de plaisir, hein, parce qu'on se lève à 6 heures, on a messe tous les matins, j'oublie de préciser qu'on se lave à l'eau froide, bien sûr, 5 heures de cours, 3 heures et demie d'études, extinction des lumières à 20 heures. Et Philippe se distingue par une tendance à discuter les ordres et par un goût vraiment très simple pour la taquinerie. Alors, quand même, il accumule les prix d'excellence. En 1917, l'avancée allemande oblige le collège à se replier à Abbeville. 1920, il passe son baccalauréat. Il fait un pèlerinage. Juste avant ça, pour s'assurer du succès, savez-vous ce qu'il dit en parlant du pèlerinage ? Ben, il dit « c'est encore ce piston-là qui est le meilleur ». Alors, il veut faire Saint-Cyr, donc il intègre Ginette, qui existe toujours à Versailles, Sainte-Geneviève. Hein. Il intègre la prépa Saint-Cyr qu'on appelle la corniche. Et le but que Philippe se fixe, c'est devenir officier. Alors, il pense, bien sûr, pendant qu'il est pensionnaire, là, à Belloy, à la chasse, à ses chiens. Mais il dit que la séparation est nécessaire pour se tremper le caractère. Alors, bien sûr, il réussit partout, sauf parfois dans son comportement. Il a parfois des remarques en politesse et en conduite. Bon, il est quand même reçu à Saint-Cyr. D'ailleurs, écoutez ça, 73 des 96 candidats présentés par Ginette sont reçus. Il n'est que cinquième. Et le major de la promotion, c'est Le Pelloc, qui deviendra général et chef d'état-major de l'armée de terre. Physiquement, comment est-ce qu'il est, Philippe ? Ben, pas très grand pour notre époque. Mais à ce moment-là, on trouvait que 1m72, ça n'était pas si mal. 1m72. Il est mince. Il a les traits fins, le nez droit, des cheveux en brosse, une fine moustache. Dès son entrée à Saint-Cyr, il écrit à sa mère « Rassurez-vous, je mettrai toujours ma conduite en accord avec mes principes. » Son but à Saint-Cyr, c'est d'intégrer la cavalerie. Ses distractions, elle n'en a pas des masses, c'est aller sonner de la trompe en forêt et puis lire la presse. Il réussit si bien la première année qu'en deuxième année, il entre dans la cavalerie et on appelle ça la basane. Alors ça semble curieux comme choix parce que finalement, il est assez peu féru de cheval. Il s'échine à rattraper ses lacunes en équitation et bien sûr, il finit premier. Il emménage donc à Saumur en septembre 1924. Comme tous les élèves officiers, il couche au-dessus de sa monture. Enfin, c'est quand même pas au-dessus du cheval, hein, je veux dire, dans une chambre au-dessus de l'écurie où se trouve sa monture. Les sous-lieutenants s'offrent du bon temps. Pas lui. À 21 ans, il a décidé qu'il était temps de se fiancer. Et son choix se porte sur Marie-Thérèse de Gargan, membre de la famille Wendel, vous savez, la dynastie des maîtres de forge. Alors, ils se connaissent quand même depuis un certain temps parce que sa sœur aînée a épousé le frère aîné de Philippe, Guy. Alors, il termine ses études et vous devinez, major de la promotion avec la mention « très bien ». Et il envisage carrément de se marier. Je disais donc qu'il envisage de se marier. Savez-vous la question qu'il a posée à sa future femme ? La voici. Acceptez-vous de toujours passer après la France ? Eh bien, la future femme, elle a répondu « oui ». Alors, il faut maintenant, comme pour tout soldat de l'époque, un certificat de bonnes mœurs de la future mariée. Il l'obtient sans problème de la gendarmerie de Versailles. Mariage le 10 août 1925, il va avoir 23 ans, en la mairie de Versailles et le lendemain dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Voyage de noces à Annecy, juste avant l'ouverture de la chasse, parce qu'il faut y être à Bellois. Grâce à sa place de major, il peut choisir son régiment. Et il choisit le 5e cuirassé, qui est basé outre-Rhin. Et de plus, c'est la coutume, il reçoit un cheval. Le cheval s'appelle Escuarazade. Ils partent donc pour Gonsenheim, près de Mayence, puis après ça, à Trèves. Alors, quelle est la vie du couple ? Eh bien, Philippe a horreur du monde. sa femme aussi, ça tombe bien. Il lit de l'histoire surtout. Sa femme joue du violon et du piano. Il aime bien chanter, accompagner. Ils écoutent Bach, Mozart, Handel. Et puis, ils ont des poules et un potager. Marie-Thérèse attend un enfant, si bien que elle part en France. Ce sera un fils qu'on va prénommer Henri. Octobre 1926, Haute-Cloq est affecté au 8e régiment de Spahis marocains à Taza. Sa femme et lui s'y installent dans une maison extrêmement modeste. Puis la famille qui s'est agrandie d'un deuxième fils, Hubert, emménage à Meknès. Philippe devient célèbre par son intransigeance et une phrase qu'il répète tout le temps, « Ne me dites pas que c'est impossible !» 1929, naissance d'un troisième fils, Charles, en l'honneur du père de Foucault. Mutation dans le Haut Atlas. Philippe étudie et parle l'arabe. Comme c'est une zone à risque, Thérèse reste en France dans une propriété près de Bélois. Alors la propriété, c'est un château cadeau de mariage du comte Adrien. Au Maroc, ce n'est pas tout repos, parce qu'il faut combattre les Aïtamou, ce sont des rebelles. Premier affrontement, premier succès. On peut dire que Philippe montre du courage, du sang-froid, et qu'il a le sens de la manœuvre. Il est cité à l'ordre de l'armée, mais il est muté à l'état-major de Rabat, et ça ne lui plaît pas du tout, parce que il préfère se battre que se trouver enfermé dans un état-major. Il trouve qu'il perd son temps. Et le voilà muté à Saint-Cyr, avec le titre d'instructeur en février 1931. Naissance d'un quatrième enfant, c'est une fille, Jeanne. Monsieur de Haute-Cloq, comme on l'appelle maintenant, c'est un instructeur extrêmement sévère. On ne doit faire aucun écart par rapport au règlement. Et écoutez ça, les élèves sont privés de sortie le dimanche si les boutons d'uniforme ne sont pas suffisamment astiqués. Alors il y gagne un surnom, barre de fer. Il stupéfie parfois ses élèves par un langage extrêmement cru. On dit que c'est à cause d'une extrême timidité. Mais quand même, s'il est sévère, il est très juste. Et à la maison, eh bien, comme toujours, il ne mène pas grand train, bien qu'il en ait finalement quand même les moyens. Sa femme a un sens extrêmement poussé de l'économie, je suis gentille en disant ça. Il fuit les mondanités, si bien qu'ils sont assez mal vus des autres aristocrates. En fait, Leclerc ne pense, je dis Leclerc parce que c'est le nom qu'il va avoir plus tard, ne pense qu'à sa carrière et à son foyer. Il souhaite retourner au Maroc, où pourtant la patrie n'est pas en danger. En attendant d'y être nommé, il part y passer 2 mois de vacances, en avion, à ses frais bien sûr. Et alors, pour des vacances, il se démène si bien qu'il réussit à avoir un commandement à Tinerir. Et avec son groupe d'hommes, eh bien, il s'attaque aux rebelles et il va de victoire en victoire. Si bien qu'on ajoute une deuxième palme à la croix de guerre. Alors les vacances sont finies, il revient en France. Il est désigné pour le cours des capitaines à Saumur, où il emménage avec femme et enfant. Et entre-temps, il y a un cinquième enfant qui est né, Michel. Il devient capitaine, il est toujours aussi craint, à juste titre bien sûr. Un jour qu'un de ses élèves, vexé d'une remontrance, refuse de faire tête gauche en passant à sa hauteur, Haut-Cloq à cheval fonce sur lui, sabre dressé. Et tout le monde a bien cru qu'il allait l'embrocher. Bon, il s'est arrêté quand même juste avant. 1935, un sixième enfant est attendu. Et c'est une fille, Bénédicte. Quand il parle de ses enfants, Philippe dit la ménagerie. Ou encore, il dit ma portée de marcassin. L'éducation des enfants, vous avez bien deviné, est extrêmement rigide et on doit toujours rapporter les meilleures notes. Été 1937, les 2 années sont terminées. Haut-Cloq décide de préparer seul l'école supérieure de guerre. Vous devinez la suite? Même s'il la préparait seul, il est reçu major. 1939, c'est la guerre. Il vient de terminer l'école supérieure et à la fin, il est encore major. Le voilà nommé chef d'état-major du général Lafontaine, commandant l'infanterie de la 4e division. Ils partent sur la ligne Maginot, puis retour du côté de Montreuil-sur-Mer. Il écrit beaucoup à sa femme. Il n'est pas très loin du château de Tilly, mais il ne veut absolument aucun passe-droit pour s'y rendre. Le 10 mai 1940, c'est l'attaque allemande dans les Ardennes. Il prend la tête de 3 bataillons pour essayer de barrer la route à la ruée. Il traverse les lignes pour soutenir le lieutenant-colonel Desroches. Et puis, vous savez bien, c'est la défaite. Il ne veut pas être fait prisonnier, alors il s'enfuit pour pouvoir combattre plus loin. Après bien des péripéties, y compris une traversée de l'Aisne à la nage, il rejoint le général Frère, qui est patron de la 7e armée. Et pendant ce temps-là, sa femme et ses enfants sont partis se réfugier à Libourne. Une partie de la 7e armée, avec Philippe, se bat, mais l'ennemi perce à Saint-Dizier et fonce sur Dijon. Il faut alors décrocher. La voiture même de Hautecloq est mitraillée, il est blessé à la tête et se retrouve à Avallon, à l'hôpital tenu par les Sœurs de la Charité. Donc il est à l'hôpital, à Avallon, et voilà que les Allemands débarquent dans la cour. Alors il ne veut pas, comme il le dit, être fait aux pattes. Donc la supérieure déclare qu'il est un simple soldat, elle lui fait un très gros pansement pour faire croire qu'il a une fracture du crâne. On le laisse tranquille, et au matin du 17 juin, il fait le mur. Il n'est pas loin du château des Tôles où demeure le beau-père de sa sœur Colette. Il y arrive et pan ! Dans la cour, il y a les Allemands. Alors il faut se rappeler qu'il a eu une gouvernante allemande, qu'il parle couramment l'allemand. Et voilà que parmi les Allemands qui sont là, se trouve un soldat originaire de la même bourgade que la gouvernante qu'il a eue. Et cet Allemand lui promet des vêtements civils pour pouvoir fuir. Il tient sa promesse. Otlok peut s'enfuir à 5 heures du matin en empruntant un vélo à un Allemand qui voulait le prendre un habitant. Il réussit à rejoindre Paris, où un ingénieur de la famille Wendel prend soin de lui. Et voici ce qu'il dit de la capitale. L'attitude de Paris, à plat ventre. Que faire? Il pourrait entrer dans l'armée au service de Pétain. Eh bien, ça ne lui traverse même pas l'esprit. Le 25 juin, il prend connaissance d'un des discours de De Gaulle. Au milieu d'un cœur assourdissant de défaitistes, il affirme que rien n'est perdu. Alors, que décide Philippe, vous l'avez deviné, il va rejoindre le général De Gaulle. Alors, grâce à des complicités, il se dirige vers le sud. Il revoit en passant sa femme et ses enfants. Il arrive à Bayonne. Il réussit à passer la frontière. En Espagne, afin de protéger les siens, il change de nom. Et j'en arrive à ce que je disais tout à l'heure. Désormais, il s'appellera Leclerc. Et si on essaie de lui dire qu'il est de Otlok, il dit non, je m'appelle Leclerc. Alors Leclerc sera adjoint à son nom plus tard. Donc il atteint Lisbonne, où il obtient un visa de l'ambassade britannique pour le Royaume-Uni. Le 25 juillet, il est à Liverpool, puis direction Londres, au 4 Carlton Gardens. Et là, il rencontre bien sûr De Gaulle. Ce dernier termine l'entretien en disant à Geoffroy de Courcelles « Voici le capitaine de Otlok, je le nomme chef d'escadron, vous lui ferez toucher, tenue, solde, etc. » Donc Philippe quitte le maréchal et fonce au quatrième étage où se trouve un cousin germain, Pierre de Otlok.
Si la bataille a cessé, les cœurs, eux, n'ont pas désarmé.
Au-delà de la mer, derrière l'horizon fumé, on espère encore. Et plus loin, là-bas, dans cette Afrique noire toujours fidèle à la France, quelques hommes viennent d'arriver, ayant pour mission de rassembler les énergies, de cristalliser les volontés de ceux qui veulent lutter encore.
En attendant, de Gaulle voit bien qu'il n'a sur place pas assez de soldats. Donc il pense, eh bien, on va trouver des soldats dans nos colonies. C'est pas facile, car Pétain envoie des émissaires dans les colonies pour qu'elles restent dans le giron de Vichy. Le général, alors, envoie 3 hommes en AEF. Je vous rappelle qu'AEF, ça voulait dire Afrique équatoriale française. Qui envoie-t-il? Il envoie René Pleven pour ses connaissances économiques et administratives, le capitaine Claude Étier de Bois-Lambert pour son expérience de l'Afrique et Leclerc. Ce dernier sera le représentant de Gaulle auprès des autorités militaires britanniques. Et alors, il aura à se bagarrer avec, hein. Donc, voilà nos hommes partis pour l'AEF dans l'hydravion personnel de Churchill. Il le lui a prêté. La tâche est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme chez les colons. Ils sont une poignée, environ 25, qui font confiance à Leclerc. Et avec cette petite poignée, eh bien, ils parviennent à prendre Douala le 27 août. Leclerc annonce sa prise de pouvoir au nom du général de Gaulle. Donc le Cameroun est maintenant dans le camp de la France libre. Alors je vais beaucoup résumer parce qu'il s'est passé plein de choses en Afrique. Hein. Surtout il a dû vraiment se heurter à des tas de gens défaitistes et se heurter quelquefois aussi aux Britanniques qui voyaient d'un mauvais œil la place qu'il prenait. Le Moyen Congo et le Tchad suivent. Ensuite, c'est la prise de Koufra en Libye en 1941. Alors, vous vous souvenez de Pétch, je parle pour les plus anciens, hein, qu'il y a eu un serment à Koufra disant qu'il ne déposerait pas les armes avant que le drapeau français flotte sur la cathédrale de Strasbourg. Cette prise de Koufra rapporte à Leclerc la croix de la libération et vraiment l'adulation de ses hommes. Il a un courage extraordinaire. Il continue à prendre à bras-le-corps les problèmes de la... Pourquoi ? Ben parce que l'AEF manque de tout. Il faut tout importer. Il a une énergie incroyable, une force de persuasion qui absolument font merveille. Et il arrive à se démener pour faire importer, évidemment, beaucoup de matériel. Au début du mois d'août, De Gaulle lui demande d'être prêt pour une opération à partir du 1er septembre. Le général veut le nommer général. Alors Leclerc, il refuse. Il dit non. Je serai général si je suis victorieux de l'expédition. Et pendant ce temps-là, Pétain le condamne à la peine capitale, comme il l'a fait pour De Gaulle. L'opération a lieu. Les troupes du Tchad sont victorieuses en Libye du Sud. Et la légende de Leclerc enfle jusqu'en France. Il est maintenant général. Alors, il faut chercher un képi. Ben oui, mais on n'en trouve pas. Alors, on lui bricole un képi avec une chéchia et on lui met une visière en carton. Et il prépare l'opération suivante. Il part découvrir Brazzaville et De Gaulle lui demande d'attaquer le Fezzan. Le Fezzan, c'est un massif situé au sud-ouest de la Libye. Et c'est encore une victoire. Il est très jalousé par les Britanniques. Maintenant, les voilà en route pour la Tunisie, où cette fois, la réussite n'est pas là. Après 4 années d'activité quasi ininterrompue, Leclerc s'offre un séjour d'agrément en Égypte du 7 au 12 juillet. Et il s'agit maintenant d'avoir une armée assez puissante pour débarquer en France. L'armée d'Afrique et les Français libres fusionnent. On équipe 4 divisions blindées. Il est à Alger où se forme la fameuse 2e DB. Il s'y ajoute 2500 évadés de France. Il faut arriver à ce que tout ce monde-là s'entende, parce que les unités sont vraiment d'origine différente. Bien sûr, ils ne vont pas débarquer en France tout de suite, ils vont passer en Angleterre d'abord. En Angleterre, on prépare le débarquement. De Gaulle exige que les troupes françaises y participent. Les blindés de Leclerc doivent donc embarquer pour la Grande-Bretagne. Le 6 avril 1944, Leclerc peut annoncer à ses chefs de corps que le premier embarquement aura lieu le 10. Ce seront 5000 véhicules et 1600 hommes. L'embarquement se termine le 20 mai. Tous les véhicules portent sur eux, dessinés, la carte de France frappée de la croix de Lorraine. Leclerc s'envole pour l'Angleterre où il fait connaissance de ses supérieurs américains. Ce sont Patton et Eisenhower. Le 30 juillet, la 2e DB débarque près d'Utah Beach. Leclerc n'a qu'une idée, Paris. Et Patton lui dit « Oui, on verra ça plus tard ». Le soir du 2 août, il part dîner chez son cousin François de Hautecloque, qui le retrouve droit comme un sabre, un peu sec et décisif et le regard clair et pur. En attendant Paris, il faut fermer la poche de Falaise. C'est difficile. Mais enfin, Alençon est libéré. Il y a quelques heures avec les Américains qui donnent parfois des ordres que Leclerc trouve idiots. Et il trouve même normal de les... il trouve même anormal de les exécuter. Ensuite, c'est l'investissement découché et on prend la direction d'Argentan. Patton se met d'accord avec Bradley pour orienter le 20e corps vers Chartres, le 12e vers Orléans et le 15e doit partir vers Dreux. Leclerc dit que voir d'autres camarades entrer à sa place dans Paris serait vraiment une énorme déception pour ses hommes. Et il ajoute que si l'honneur d'entrer dans Paris lui est refusé, il demande à être relevé de son commandement. Alors, Patton trouve que ce général-là est bien, et j'emploie le mot de Patton, il est bien emmerdant. Leclerc enrage. Le 20 août, De Gaulle est arrivé en France. Il rappelle à Eisenhower que ce dernier lui a promis en 1943 d'engager la 2e DB vers Paris, mais sans préciser de date. Leclerc alors décide de désobéir avec un détachement de blindés. Il le dit à De Gaulle. De Gaulle ne dit rien. La préparation se fait dans le plus grand secret. Le capitaine de Boissieu se voit chargé de promener les deux officiers américains de liaison. La colonne parcourt en une journée les 200 kilomètres entre Argentan et Arpajon. Quand il l'apprend, l'américain Jero manque s'évanouir. Eisenhower est prévenu et il décide d'appuyer Leclerc en lui envoyant un corps américain, le 5e. Leclerc s'entretient avec De Gaulle, lui annonce qu'il attaquera la périphérie de Paris le lendemain, et De Gaulle lui répond « Vous avez bien de la chance. Au revoir à tous. »
Ainsi la force L, les soldats de France, les couleurs de France, furent-ils présents à Tunis?
Comme ils furent présents au Maroc, sous l'appellation nouvelle de 2e division blindée. 2e DB, la division Leclerc.
La division Leclerc.
Puis ce furent les heures exaltantes.
Paris est libéré.
Vive Leclerc.
Von Scholtitz s'est rendu à De Gaulle.
Mission accomplie, mon général.
D'Alsace.
Mission accomplie.
Strasbourg libéré.
Mission accomplie.
Berchtesgaden, le repère d'Hitler.
Mission accomplie.
Le 7 mai 1945.